Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous, on va s'amuser aujourd'hui dans le goût d'entreprendre et la saison est lancée en effet dans les parcs d'attractions et nous avons choisi de vous emmener au Burgos, c'est à quelques kilomètres de Grenade, en Haute-Garonne, dans un parc qui s'appelle Anima Park. La famille Poujade s'est installée dans la forêt il y a quelques années et n'a cessé de grandir. C'est une entreprise familiale, vous allez l'entendre, qui se porte plutôt bien. Bonjour Pascal, bonjour Marina. Dans la famille Poujade, on demande la mère, Pascal et la fille, Marina.
Bonjour.
Merci à vous de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir. Votre histoire est très intéressante et même passionnante. Vous êtes aux commandes d'un parc d'attractions. Qu'est-ce qu'un parc d'attractions? On y vient de quel âge à quel âge? De 6 mois à 100 ans?
C'est à peu près ça, oui. On y vient en famille.
En famille, Pascal. Alors, vous êtes installé au Burgos. Burgos, c'est, si on peut resituer, c'est une petite commune qui se trouve à quelques kilomètres de Grenade.
À 13 kilomètres de Grenade.
Dans la campagne de Haute-Garonne.
Voilà.
Un charmant village. Alors, Pascal, racontez-nous votre histoire. Comment vous avez commencé? Puisque, au départ, c'est-à-dire en 2005 à peu près, vous avez eu l'idée de lancer le parc. Vous n'étiez pas du tout dans les attractions.
Absolument pas. Mon mari était agriculteur, moi j'avais une formation d'infirmière et nous avions lancé une ferme pédagogique en Tarn-et-Garonne depuis presque 10 ans. Et petit à petit, nos amis toulousains nous ont soufflé à l'oreille qu'il manquait quelque chose près de chez eux.
Ouais.
Et on les a écoutés.
Et vous êtes venu, donc vous êtes parti du Tarn-et-Garonne pour venir à côté du Burgos.
Voilà, tout à fait.
C'était quoi une ferme pédagogique? Vous aviez des animaux?
On n'avait que des animaux.
Ouais, d'accord. Et vous receviez donc le public pour leur présenter les lapins.
Voilà, on recevait
les cochons,
les familles et les scolaires depuis toujours.
Alors, comment s'est passée votre arrivée au Burgos? Vous vous êtes installé donc sur un terrain vierge,
en pleine forêt. On a mis presque 2 ans à débroussailler tout à la main.
Ah ouais.
Et on a commencé petit à petit à mettre nos animaux et quelques jeux.
Quelques jeux, voilà.
C'était quelques jeux au début, oui. Ouais.
Moi, je vous ai connu en 2005 et effectivement, il y avait, je me souviens de lapins nains, de cochons d'Inde dans la forêt.
Ouais, les animaux sont toujours là.
Ouais, ouais, ouais. C'était votre ADN, les animaux.
Oui.
Marina, vous, à l'époque, vous étiez petite?
Ah oui, je suis arrivée au Burgos, j'avais 11 ans.
11 ans, ouais, et donc...
J'en ai 26 aujourd'hui.
Voilà, et vous avez donc commencé à jouer dans le parc et vous occuper des animaux.
Oui, oui, c'est ça. J'ai passé des journées entières dans les jeux gonflables, dans les manèges, à me balader dans le parc avec d'autres groupes, à faire les visites guidées.
Si Marina est avec nous aujourd'hui, c'est parce que Marina, en fait, va reprendre dans quelques années le parc d'attractions. C'est aujourd'hui votre directrice administrative.
Tout à fait.
Alors Pascal, revenons aussi sur vos débuts. C'est important de savoir pourquoi vous avez eu envie de partager cette passion. C'est une histoire de passion aussi.
Bon, c'est un métier de passion complètement, oui.
Vous avez eu envie de partager, de recevoir du public, voilà, d'expliquer.
Voilà, la passion, elle est surtout au départ avec les scolaires.
Ouais.
C'est le plaisir d'apprendre, de partager. Et les familles, c'est quand même des moments très privilégiés.
C'est ça.
Mais à aucun moment, on avait imaginé la suite de l'histoire du parc. Ouais, ça, ouais, c'était tout à fait inattendu.
C'est-à-dire qu'au début, vous receviez beaucoup d'écoles, vous expliquiez ce que mangent les animaux, etc.
Ouais. Ben, on était parti sur un prévisionnel de 25 ou 30 000 personnes. Et actuellement, on est à 135 000 personnes, ce qui n'était pas du tout prévu au départ de l'aventure.
Vous avez l'impression d'avoir été un petit peu dépassé par les événements?
Dépassé, non, parce que c'est pas arrivé d'un coup, mais...
Ouais. On a été victime de notre succès.
Victime du succès, Marina, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, racontez-moi, justement, qu'est-ce qui a fait votre succès, d'après vous? Qu'est-ce qui est différent dans votre parc?
C'est aux clients qu'il faudrait le demander, parce que c'est ce qu'on nous dit souvent, qu'on est très différent, peut-être parce qu'on est simple.
L'esprit familial.
Et que c'est très familial, pense que c'est surtout ça.
Ouais.
Et que malgré le monde, on essaye de ne pas changer.
C'est-à-dire que vous restez toujours à l'accueil, Pascal?
Oui.
Vous accueillez toujours les clients. Alors, vous restez simple, ça veut dire quoi? C'est simple dans un parc d'attractions.
On n'est pas commercial.
Ouais.
Ça ne se veut pas un parc commercial.
Vous avez fait de la communication, vous avez fait de la com quand même, pour vous faire connaître.
Il faut bien... Mais c'est pas artificiel, voilà, c'est peut-être ce mot-là.
C'est ça.
Voilà,
c'est
il faudrait le faire valider par nos clients, mais ça reste, je pense, un endroit qui n'est pas artificiel.
Authentique.
Qui a une âme, oui.
Ouais, ouais, ouais. Alors, vous allez nous faire rêver un petit peu, puisque nos auditeurs ne connaissent pas, peut-être pas, Anima Park. Quand on vient chez vous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On va parler de 2019. Il y a des nouveautés aussi.
Ah oui, chaque année, il y a des nouveautés. On peut aller voir les animaux, on leur donne à manger.
C'est-à-dire qu'on peut donner le biberon, par exemple?
Non, on ne donne plus le biberon.
On donne
du granulé aux chèvres et aux moutons. Ils sont extrêmement gourmands. On va voir un parc de dinosaures qui raconte toute l'histoire de cette période, qui a beaucoup de succès, même auprès des adultes. Et puis, évidemment, on passe toute la journée à s'amuser, puisqu'on a installé des manèges, des différents jeux, un jeu de piste, une partie d'acrobranche, et qui permet aux familles de passer la journée et de s'amuser ensemble.
Comment vous avez trouvé les idées de thématiques? Par exemple, les dinosaures.
J'ai 100 000 idées à la minute, alors c'est pas ça le problème.
Vous vous êtes documenté, vous avez fait appel à des ressources
J'ai travaillé 3 ans pour monter le projet.
Sur les dinosaures?
Oui.
Ouais. Vous êtes accompagné par des historiens, peut-être?
On l'a fait valider après.
D'accord. Oui, parce que c'est important aussi de pouvoir proposer quelque chose d'authentique.
On n'a pas raconté n'importe quoi, non.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, pour les jeux, comment vous avez fait? Comment devient-on gérant ou responsable de parc d'attractions? Est-ce qu'on doit, par exemple, suivre une formation?
Alors, on fait des formations régulièrement sur la sécurité qui sont induites par le syndicat, le SNELAC, qui nous aide beaucoup sur toute la maîtrise des nouvelles normes et de la sécurité.
Ouais, ça, les normes, ça représente quand même une grosse partie de votre...
Après, le parc est contrôlé chaque année par un organisme indépendant, qui est pour nous la Socotec.
Ouais.
Ça, c'est, de toute façon, c'est obligatoire.
Les normes, c'est important?
Ah oui. Il y a toutes les normes au niveau de l'hygiène, de la restauration, et beaucoup, beaucoup de normes au niveau des jeux, qui changent en permanence. Il y a des contrôles très très pointus qui se font tous les jours, d'autres tous les mois, et après bien sûr un suivi à l'année aussi.
Ah,
mais
voilà.
Tous les jours, il y a une équipe de 6 ou 7 personnes qui vérifient tous les matins avant d'ouvrir le parc.
C'est ça, 6 ou 7 personnes qui font partie de votre parc.
Et chacun, et ça c'est chapeauté par mon mari par contre.
D'accord, ok, on peut pas plaisanter là-dessus.
Non.
On est bien d'accord Marina, oui.
Non.
Vous êtes combien dans le parc aujourd'hui à y travailler?
En pleine saison, 55.
55 personnes.
Ouais.
C'est une grosse activité.
Ça devient une grosse entreprise.
Ouais.
On est 7 permanents.
7 permanents, 55 personnes et vous prenez des saisonniers?
Oui.
La phase de recrutement de saisonniers est en cours?
Elle est presque terminée. Il nous manque un cuisinier encore, mais je crois que...
On peut lancer un appel.
Voilà. Et il y a un agent de maintenance. Ça, oui.
D'accord, un agent d'annonce donc qui va s'occuper de toute la partie mécanique.
Qui va épauler mon mari et le jeune qui travaille avec lui. Mécanique et électromécanique surtout.
Ouais, d'accord, des manèges.
Ouais.
Des manèges. Pascal, est-ce qu'on peut dire que c'est une, aujourd'hui avec un petit peu de recul, que c'est une belle aventure, si c'était à refaire par exemple?
C'est une belle aventure, c'est une aventure très compliquée. Oui, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure humaine surtout.
Parce que vous travaillez aussi en famille?
Parce qu'on travaille en famille et puis c'est plaisant de faire sourire les gens.
Marina, vous avez grandi dans le parc et à la fin de vos études, vous vous êtes dit, c'est ma maison, je vais...
Ah, c'est mon bébé, hein. Je suis arrivée, je l'ai vu en construction, j'ai testé tous les jeux, on allait dans les parcs pour tester les jeux, voir ce qui allait plaire aux autres enfants, pour moi... C'est toute mon enfance et je compte bien faire perpétuer cette histoire.
Et oui, vous allez garder donc ce bébé, le faire grandir encore.
Voilà, exactement.
Oh, oui, voilà, ça, c'était incontournable. Pour vous, Pascal, c'est important que vos enfants reprennent l'activité?
Ah ben oui, parce que c'est quand même 15 années de combat, donc c'est quand même, ce serait dommage que ça s'arrête maintenant, que ça commence à être joli.
C'est ça. Pourquoi vous dites combat?
Parce que c'est pas nécessairement facile tous les jours.
Ouais. Le fait d'être chef d'entreprise ou de gérer un parc d'attractions?
Les deux.
Les deux?
Je dirais les deux.
Vous êtes installé donc à la campagne, hein. Le Burgos,
c'est en pleine campagne.
On le disait, c'est un charmant village. Vous avez amené une plus-value en termes touristiques au village du Burgos.
Ah, c'est ça, oui, je crois que le village du Burgos est connu maintenant. Ça, c'est
grâce
indéniable.
Ouais. Vous êtes accompagné par la municipalité?
Ah, on a un maire qui nous soutient beaucoup.
Il apprécie votre présence,
oui, je pense,
sur place.
Et qui fait toujours tout pour nous aider.
Au niveau des accès du parc, puisque vous êtes vraiment en pleine campagne, il a fallu, j'imagine, mettre en place des accès réservés au parc, de gros travaux.
On a fait des gros travaux il y a 8 ans, où on a installé un sens unique, de façon à gêner le moins possible nos voisins.
Mmh, bien sûr. Oui, voilà, c'est pour réguler le flux de véhicules. Qu'est-ce qu'on fait, Pascal, dans un parc? Est-ce que vous pourriez nous décrire votre journée type? Vous commencez à quelle heure?
Alors, on n'est pas très courageux, pas très tôt. On commence à 8 heures. Mais moi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est administratif et de mise en place.
Mm-hmm.
Donc, j'ai la charge du planning, par exemple, qui prend beaucoup de temps.
Ouais.
Et après, on installe. Ça dépend des périodes. En ce moment, c'est une période très agréable parce qu'on est en période de réservation scolaire, ce qui est toujours mon dada. Donc, c'est toujours agréable de retrouver les enseignants qu'on connaît depuis, pour certains, depuis 25 ans, qui nous suivent.
Mmh.
C'est toujours agréable. On retrouve nos crèches, nos centres de loisirs.
C'est ça.
Et puis, on retrouve tous nos clients fidèles. Donc, c'est agréable.
D'accord. OK.
Donc, on passe beaucoup de temps au téléphone. Beaucoup de temps à faire de la comptabilité, beaucoup de temps à faire des devis, beaucoup de temps à travailler actuellement sur les projets de l'an prochain et dans les projets dans 2 ans même. Donc ça, c'est le grand débat du moment.
C'est ça, il faut toujours anticiper.
Ouais.
Marina, vous avez dit tout à l'heure que vous alliez faire grandir ce bébé. Il faut toujours anticiper. On ne peut pas dire, bon voilà, ça y est, c'est fini, on arrête là. C'est pas possible.
Parce que les gens veulent du renouveau, donc on est toujours obligé d'écouter ce qu'ils veulent et de grandir.
Ouais. Vous écoutez beaucoup les clients?
Il faut écouter les clients. Mais il faut trouver le juste milieu pour pas que ça devienne trop grand. Il faut maintenir ce que c'est maintenant en offrant toujours quelque chose de nouveau.
C'est ça, en renouvelant chaque année les attractions, en trouvant de nouvelles idées. Vous restez avec nous toutes les deux?
Eh oui.
Allez, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Merci de rester avec nous sur Radio Présence et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la seconde partie du goût d'entreprendre. Bonjour Jean-Marc Fontaine.
Bonjour Doris.
Vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre et merci surtout à vous Marina, merci à vous Pascal Poujade d'être avec nous. Vous venez tout spécialement du Burgos, c'est à côté de Grenade en Haute-Garonne et vous êtes aux commandes et aux manettes d'AnimaParc. Alors on a bien compris dans la première partie de cette émission, c'est un parc authentique, familial, naturel, installé en pleine nature, en pleine campagne et avec une particularité, c'est-à-dire la proximité. On va en reparler avec vous, Jean-Marc.
Bonjour Pascal, bonjour Marina.
Bonjour.
Alors ma première question, elle est justement par rapport à ça, cette dimension un peu humaine. Vous vous présentez comme un parc de loisirs qui garde toute sa dimension humaine. Mais face à la concurrence des grands parcs d'attractions, est-ce qu'on n'est pas tenté de faire toujours plus, toujours plus grand, toujours nouveau? Est-ce que ce n'est pas finalement une course à l'investissement pour pouvoir continuer à exister?
Pascal.
Alors, c'est ce qui se fait dans la plupart des parcs en France. Alors, nous, on essaie de se battre contre ça. Alors, de mettre du nouveau, oui.
Ouais.
On essaie d'écouter les gens, mais on essaie de ne pas perdre de vue l'esprit du parc, tout en mettant des choses nouvelles. Donc c'est toujours des grandes discussions, des grandes réflexions, en essayant de jamais se tromper. Là, on est sur les projets de l'année prochaine et même les projets de 2021. Et tout le problème, c'est de trouver le bon jeu pour pas que ça devienne commercial.
Alors comment vous faites justement pour trouver le bon jeu? Vous allez dans les salons, les foires Marina?
Oui, ben on va chaque année, on essaye d'aller au IAPA, donc salon international, qui peut être en Espagne comme en Italie, un petit peu partout. Et après, c'est vrai qu'on a nos fournisseurs aussi, donc on n'hésite pas à leur poser plein de questions, puis on discute tous en interne. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail d'équipe.
Et vous êtes très exigeant alors sur la sélection des jeux?
Ah oui, c'est des débats sans fin chez nous. Puis après, on parle beaucoup avec nos collègues aussi. On va se retrouver à Paris à Astérix la semaine prochaine pour l'Assemblée Générale du CNELAC, où en dehors des heures de formation, on parle beaucoup avec nos collègues. Et les ressentis des autres sont souvent les ressentis des nôtres. Donc ça permet aussi de progresser. d'éviter parfois de faire des bêtises aussi.
Vous avez pris conscience que vous êtes devenu incontournable maintenant dans le paysage des parcs d'attractions en France ?
En France, je ne sais pas. Ah. Dans la région, allez, c'est déjà pas mal.
Jean-Marc, une autre question.
Oui, alors j'ai vu qu'en 2018, la fréquentation des parcs de loisirs en France était très très importante. Alors vous me disiez tout à l'heure que c'était plutôt pour les grands parcs. Malgré tout, il semble que même si la concurrence est dure par rapport aux grands parcs, vous tirez bien votre épingle du jeu. J'ai vu que bon, vous, au niveau de la rentabilité, c'est quand même pas mal. À quoi vous attribuez ça finalement? Vous êtes un petit et malgré tout, ça marche bien. Quelle est votre spécificité par rapport à ça? Parce que bon, on pourrait dire ça marche bien, mais financièrement, c'est très très difficile. Or là, aussi financièrement, c'est pas mal.
C'est très difficile quand même. Peut-être parce qu'on est à l'écoute des personnes. Alors, je voudrais quand même mettre un petit bémol à ce que vous avez dit, parce que 2018, pour nous, a été l'année la plus difficile depuis l'ouverture du parc. Alors, c'est assez général sur l'Occitanie, en particulier sur la partie sud-ouest de l'Occitanie et l'Aquitaine. On a été très impacté par 4 mois de pluie. Alors que dans le nord, il faisait très beau. Donc, effectivement, les gros parcs, quand ils sont arrivés au mois de juillet, avaient une avance formidable. Et nous, on était déjà en très mauvaise position. Après, on a été impacté par le mondial. On l'a tous été. Et puis après, on a eu 40 degrés. Et ça faisait pour le coup un peu beaucoup. Donc, ce n'était pas l'année à prendre en référence pour nous. Ça a été une année extrêmement difficile. Et on va dire qu'il n'en faudrait pas deux comme ça à la suite. D'accord. Voilà, donc ça nous a un petit peu fragilisés. Mais on voit qu'on retrouve nos clients dès qu'ils veulent bien se faire beau. C'est un petit peu difficile.
Et oui, parce que
cette année
en extérieur chez vous.
On est très tributaire de la météo.
Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez à peu près 55 personnes qui travaillent dans le parc. Ouais. Vous continuez à recruter des cuisiniers, des serveurs, des opérateurs de manège, des employés polyvalents. Comment est-ce que vous arrivez, malgré tout, à maintenir l'esprit familial fondateur dans une équipe de 50 personnes qui viennent d'un peu partout, j'imagine, qui ne sont pas forcément
des enfants de la balle.
Des enfants de la balle et des enfants du pays.
Des enfants du pays. Alors, c'est un grand pays parce que plus ça va, et particulièrement cette année, je trouve que les gens viennent de loin. Ils viennent du sud de Toulouse, ils viennent du Gers, ils viennent de Montauban. Les gens viennent d'assez loin. Donc, cette année, c'est pas. Ce ne sont pas nécessairement des personnes qui sont juste à côté de chez nous.
D'accord. Ils viennent aussi parce que c'est un parc à dimension humaine, parce qu'ils savent qu'il y a une ambiance ou parce qu'ils sentent, au travers des contacts qu'ils ont...
Mais on a des adultes, dirons-nous, de vrais adultes qui ont jusqu'à 70 ans, qui travaillent chez nous et qui sont là parce qu'ils se plaisent. Et puis on a des tout jeunes, des étudiants qui nous rejoignent pour l'été. Mais là, actuellement, on a des personnes qui viennent absolument de tous les horizons et qui ont absolument tous les âges. C'est très rigolo.
Et comment vous arrivez à faire passer justement votre ADN lorsque vous menez des entretiens de recrutement?
On leur explique. Je pense qu'ils voient vite à qui ils ont affaire. Ouais. Et que ceux qui ne se plaisent pas, restent pas, sans doute.
Marina, vous partagez?
Oui, puis ça se fait aussi un peu au feeling, comme partout. On voit les gens qui ont le sens, qui ont le sens avec le contact avec les gens et qui. C'est primordial, avoir le sourire, avoir un bon contact avec les clients et après, avec ça, on peut faire quelque chose.
Vous êtes encore. Alors, vous êtes directrice administrative du parc, mais vous êtes encore dans le parc. Vous surveillez, entre guillemets, les manèges.
Alors, il faut savoir qu'Animapark, on est quand même très polyvalent. Ça peut arriver que j'aille faire les postes sur les manèges, comme s'il y a un coup de bourre le midi au snack, je peux aller aussi aider au snack. Uh-huh. Je suis en caisse le matin, l'après-midi quand il y a beaucoup de monde, ou sinon je peux être au bureau, je peux aller faire un tour pour voir ce qui se passe aussi dans le parc. Voilà, donc je suis un peu partout aussi. Hein.
Jean-Marc, une autre question.
Alors, on l'évoquait tout à l'heure, de plus en plus, les gens, les clients, parents et enfants, et même grands-parents, viennent dans les parcs d'attraction pour, comme on dit, vivre une expérience.
Oui. Hein.
Alors,
c'est
très à la mode. Hein. Comment pourriez-vous qualifier l'expérience vécue par les visiteurs d'Animapark?
Alors, chez nous, pour nous, c'est le partage en famille. C'est l'essentiel de ce qu'on essaie de faire passer. Le fait que les gens puissent s'amuser ensemble. Alors après, on a beaucoup de groupes d'enfants aussi, mais c'est le mot ensemble qui pour nous doit être le plus important.
retrouver le plaisir d'être en famille, voilà. De s'amuser en famille ou
de choses simples.
Entre familles.
Voilà. De choses simples.
Ouais. Beaucoup d'attractions peuvent être faites parents-enfants.
D'accord. C'est ça, ouais. Voilà.
Voilà, les gens nous disent souvent qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais osé faire ailleurs.
Comme quoi, par exemple?
Aller dans certains jeux de petits où les papas, les mamans, les grands-parents vont avec les petits. Et c'est joli, c'est ça que je trouve joli.
Et ça, c'est bien, ouais, là, c'est bien perçu, c'est bien vécu.
Voilà, ouais. Après, tout le monde ne le sent pas, mais on dira que majoritairement, les gens ont compris ça.
C'est ce que recherchent
c'est ce les gens. Voilà, c'est ce que nous, on cherche à faire passer, en tout cas.
Parce que vous voyez arriver beaucoup de familles, de 8-10 personnes, peut-être.
Et il y a beaucoup de gens qui viennent passer la journée chez nous en groupe, absolument. Avec les cousins, avec les grands-parents, avec... des groupes de copains et ils s'installent, ils prennent leur table de pique-nique et c'est leur chez eux pour la journée.
La diversité des attractions que vous proposez, j'imagine qu'elle est le résultat d'une volonté délibérée de ne pas se limiter ou de limiter, ne pas limiter la vision des enfants à des jeux uniquement artificiels, des manèges, mais de les ouvrir sur la nature, avec les animaux, sur l'histoire. Est-ce que c'est un peu ça?
Ah, c'est tout à fait ça. Ouais. Et on n'a jamais voulu faire un parc d'attractions pure, ça, certainement pas. Disons que les attractions et les jeux permettent aux gens de passer la journée. Mais ce n'était pas le fondamental du parc à la base, certainement
pas. D'accord. Mais c'est un visée pédagogique.
Oui. C'est pour ça qu'il est né par les animaux. On a réinstallé le parc de dinosaures pour accentuer cet esprit-là. On a un jeu de piste qui permet aux gens qui ont envie d'aller s'échapper dans la forêt, d'aller... au calme, voilà. Il y a le parc d'attractions, parce que les gens étaient en demande et qu'on l'a fait, et qu'on est content de l'avoir fait, mais il y a le reste aussi.
Et c'est ce qui fait probablement peut-être votre caractère spécifique.
Bon, je pense.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcs d'attractions qui offrent cette diversité.
Non.
De...
Ouais. Non, puis le cadre, c'est un cadre en pleine forêt, donc c'est vraiment ça, vous l'évoquiez Doris tout à l'heure, c'est complètement naturel.
Alors justement, sur l'aspect naturel, j'ai vu que, en allant un peu sur votre site, vous serviez des boissons dans des gobelets récupérables. Donc, premier pas vers un développement durable. Alors, est-ce que vous souhaitez aller plus loin dans une telle démarche et vers quoi? Comment on peut faire dans un parc d'attractions pour dire, ben, finalement, on est dans le développement durable?
On est de plus en plus vert, en fait.
Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, depuis 3 ans, déjà, on donne la nourriture des animaux, on les donnait dans des barquettes en plastique, qu'on retrouvait systématiquement jetées dans les animaux, qui remplissaient les poubelles. Donc, on a commencé à mettre des gobelets recyclables. Et ça a très bien fonctionné. Les gens ont complètement intégré ça. Donc déjà, moins de poubelles, des animaux un peu plus heureux parce qu'il n'y a pas du plastique partout. Donc on l'a mis en place sur les boissons cette année pour la première fois aussi. Et on fait des campagnes, on essaie de mettre des panneaux partout pour expliquer le tri. Mais c'est très difficile. C'est réellement très très difficile.
Ça va venir, Pascal.
Il faut que ça vienne.
Ça peut prendre du temps, mais ça va venir. Vous donc sensibilisez en tout cas.
Des nouveaux panneaux.
Vous jouez votre rôle.
Ouais. Voilà, on l'a écrit dans le livre d'accueil que nous avons fait cette année. On est occupé à élaborer un document pour le donner aux gens qui vont chercher quelque chose au snack pour leur redemander de ne pas jeter les canettes, de ne pas jeter
les enfants
les bouteilles
ne
n'importe où.
Plus raisonnables que les parents, finalement, dans cette...
Je ne sais pas. Ça, c'est un gros, gros problème chez nous.
Mais ça fait partie aussi de votre préoccupation.
Oui, complètement.
D'accord.
On travaille avec la communauté de communes là-dessus, d'ailleurs.
Anima Park, on l'a dit tout à l'heure, est implanté dans un territoire agricole. Alors, je me posais la question, finalement, n'est-ce pas une opportunité supplémentaire de vous différencier en proposant aux visiteurs de se restaurer avec les produits locaux? Et une chance aussi pour les enfants de se familiariser avec des produits sains dans un cadre récréatif. Est-ce que vous y avez pensé à ça?
Absolument, ça fait partie des projets. Alors, actuellement, on n'a pas les budgets pour monter un pôle de restauration aussi gros. Ça viendra, ça fait partie des projets. La restauration, c'est toujours difficile à gérer, parce que certains jours, il n'y a personne, et d'autres jours, il y en a
bien sûr.
Beaucoup, comme ça s'est passé le 1er mai, par exemple. Donc, c'est très compliqué de stocker des denrées fraîches. Donc c'est encore un autre métier. C'est vers les choses vers lesquelles on essaie d'aller. En tout cas, dans ce qu'on choisit, on essaie de choisir les produits les plus naturels possibles, malgré tout.
Et là, il y a des producteurs locaux qui seraient prêts à vous suivre
Alors, jusqu'à maintenant, il y a chaque année des producteurs locaux qui viennent vendre leur production sur, à l'entrée du parc.
D'accord.
Et qui ont beaucoup de succès.
Et là, vous le feriez rentrer dans le parc.
Voilà, c'est le projet des. Ça rentre dans les projets des années à venir.
Voilà.
Mais il faut pouvoir faire un bâtiment et c'est des millions encore en jeu.
Peut-être une toute dernière question, Jean-Marc.
Oui, voilà 25 ans qu'Anima Park existe. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse?
Pas Anima Park. Anima Park a 15 ans.
15 ans, voilà. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse dans le chemin parcouru jusqu'à maintenant et les accomplissements réussis?
De voir le sourire des clients et les yeux qui brillent. C'est la plus jolie, le plus joli des cadeaux pour nous.
On est encore pris par le temps. Désolé Jean-Marc. merci à vous toutes les deux. On peut peut-être donner l'adresse de votre site internet animapark.com tout simplement. Et les tarifs d'entrée du parc?
Alors c'est 14 euros pour les enfants jusqu'à 4 ans et 15 euros au-delà.
Merci beaucoup. Continuez à bien vous amuser. Merci à vous Jean-Marc et merci à vous également
merci
de nous
vous.
Écouter. Toujours plus nombreux, écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.